Chapitre 1. J'entends son crâne exploser, puis son sang gicle sur moi. Le souffle coupé, je recule sur le trottoir, me prends le talon sur le rebord et me rattrape au montant d'un panneau de stationnement interdit pour ne pas tomber. Il y a quelques secondes, cet homme se trouvait devant moi, au milieu d'une cohue qui attendait le feu vert pour traverser. Mais il est descendu trop tôt sur la chaussée, se faisant happer par un camion. J'ai plongé en avant pour l'arrêter, sans l'atteindre parce qu'il était déjà tombé, et ai fermé les yeux au moment où sa tête passait sous le pneu. Je l'ai juste entendu sauter comme un bouchon de champagne. Il était dans son tort, les yeux fixés sur son téléphone, comme il devait traverser souvent, sans aucun problème jusqu'à ce jour. Mort par habitude. Les gens poussent des cris étouffés, mais ne hurlent pas. Le passager du camion saute à terre et s'agenouille devant le corps. Je m'écarte de la scène tandis que plusieurs personnes se précipitent afin de l'aider. Inutile d'approcher l'homme sous la roue pour comprendre qu'il n'a pas survécu. Il suffit de voir mon chemisier blanc éclaboussé de sang pour savoir qu'il a plus besoin d'un corbillard que d'une ambulance. J'essaie de m'éloigner, histoire de respirer un bon coup, mais le signal piéton est passé au vert et la cohue se met en mouvement, m'empêchant de remonter le courant. Certains ne lèvent même pas la tête de leur téléphone en passant devant l'accident. Je ne tente plus de résister au flot, tâchant seulement de ne pas regarder la victime. Derrière le véhicule, le conducteur parle au téléphone, les yeux affolés. Trois ou quatre personnes prêtent main forte aux passagers, tandis que d'autres, cédant à leur curiosité morbide, photographient déjà la scène. Si ça se passait en Virginie, où j'ai vécu toute mon enfance, les choses se dérouleraient d'une façon totalement différente. Tout le monde se serait arrêté, dans un réflexe de panique, on crierait, les journalistes accourraient. Mais ici, à Manhattan, un piéton renversé par un camion, ça arrive si souvent que ça tient juste du désagrément. Un embouteillage pour certains, des vêtements bons à jeter pour d'autres. Ça doit être si ordinaire que ça ne fera pas une ligne dans les journaux. Si, d'un côté, l'indifférence me dérange, de l'autre, c'est exactement pour ça que je me suis installée ici voilà 10 ans. Les gens comme moi se sentent mieux dans des villes surpeuplées où on ne fait pas attention à vous, où beaucoup vivent des histoires bien plus lamentables que la mienne. Ici, je suis invisible, insignifiante. Manhattan est trop peuplée pour s'occuper de moi, et c'est pour ça que je l'aime. Vous êtes blessé ? Je lève la tête vers un homme qui m'effleure le bras tout en examinant mon chemisier, l'air préoccupé, comme s'il cherchait une blessure quelque part. À sa réaction, je conclus qu'il ne s'agit pas d'un New-Yorkais pur et dur. Il vit peut-être ici, mais chez lui, on a su conserver un certain sens de l'empathie. « Vous êtes blessé ?» répète l'étranger en me fixant cette fois dans les yeux. « Non, ce n'est pas mon sang. J'étais à côté de lui quand... » Je m'interromps. Je viens de voir un homme mourir. J'étais tout près de lui. Son sang a jailli sur moi. Je suis venue dans cette ville pour me rendre invisible, mais je ne suis sûrement pas insensible. J'ai bien essayé pourtant, tâchant de devenir aussi dur que le béton sous mes pieds. Ça n'a pas trop fonctionné. Tout ce que je viens de vivre me donne la boule au ventre. Je couvre ma bouche d'une main, mais la retire vite lorsque je sens quelque chose de poisseux sur mes lèvres. Encore du sang. J'examine mon chemisier. Tout ce sang, pas le mien. J'essaie de dégager l'étoffe de ma poitrine, mais elle y reste collée par les éclaboussures qui commencent à sécher. Je vais avoir besoin d'eau. La tête me tourne et j'ai envie de me frotter le front, de me pincer le nez en même temps. J'ai peur de me toucher. Je demande à l'étranger qui me tient encore le bras, « Il y en a sur mon visage ?» Ses mâchoires se crispent et il détourne les yeux, scrutant la rue autour de nous. Puis il désigne un café à quelques pas. « Ils doivent avoir des toilettes, » dit-il en posant la paume dans le creux de mon dos pour me pousser dans cette direction. En face de nous se dresse le Pantheon Press Building, vers lequel je me dirigeais avant l'accident. J'étais presque arrivée, à 4 ou 5 mètres d'une réunion à laquelle j'avais désespérément besoin d'assister. Je me demande à quelle distance l'homme qui vient de mourir se trouvait de sa destination. L'inconnu m'ouvre la porte du café. Une femme armée de 2 tasses essaie de me doubler jusqu'au moment où elle aperçoit mon chemisier, Elles reculent d'un coup, nous laissant à chacune la place de passer. Je me dirige vers les toilettes pour dames, mais la porte est fermée à clé. L'homme ouvre celle des messieurs et me fait signe de le suivre. Sans refermer derrière nous, il se dirige vers le lavabo, ouvre le robinet. Je me regarde dans la glace, soulagée de constater que ce n'est pas aussi affreux que je ne le craignais. Quelques gouttes de sang commencent à brunir sur mes joues, ainsi qu'une projection au-dessus de mes sourcils. Pas de chance, c'est le chemisier qui a presque tout pris. L'homme me tend du papier mouillé, et je m'essuie le visage tandis qu'il tire d'autres serviettes du distributeur. Je sens l'odeur du sang à présent, cette âcreté qui me renvoie à mes 10 ans, assez puissante pour qu'elle ait accompagné mes souvenirs. Prise d'un début de nausée, j'essaie de retenir ma respiration, luttant contre l'envie de vomir. Il faut que je me débarrasse de ce chemisier, tout de suite. Je le déboutonne de mes doigts tremblants, l'enlève, le place sous le robinet, laisse l'eau faire son œuvre tout en prenant l'autre paquet de serviettes humides que me présente l'inconnu. Et je commence à essuyer le sang de ma poitrine. Il se dirige vers la porte, mais au lieu de me laisser un peu d'intimité alors que je me retrouve là, dans mon plus hideux soutien-gorge, il nous enferme pour empêcher quiconque d'entrer. Intempestive galanterie qui me met mal à l'aise. Je ne peux m'empêcher de le surveiller dans le miroir, jusqu'à ce que quelqu'un frappe. « 1 minute !» lance-t-il. Je me détends un peu, réconfortée à l'idée que quelqu'un, dehors, puisse éventuellement entendre mes cris. Je me concentre sur le sang jusqu'à ce que je sois certaine d'avoir bien lavé mon cou et ma poitrine. Ensuite, j'inspecte mes cheveux en me tournant de droite à gauche, mais ne trouve que des racines brunes au-dessus de mes mèches caramel. « Tenez !» dit l'homme en déboutonnant son impeccable chemise blanche. « Prenez ça !» Il a déjà enlevé sa veste, maintenant accroché à la poignée de la porte, et se retrouve en t-shirt. Bien musclé, il est plus grand que moi. Je vais complètement nager dans ce vêtement. Je ne peux pas porter ça pour mon rendez-vous, cependant, je n'ai pas le choix. Alors j'accepte. Achève de me sécher, puis l'enfile et commence à fermer les boutons. Ça fait un peu ridicule, mais au moins, ce n'est pas mon crâne qui a explosé sur quelqu'un d'autre. Le bon côté des choses. Je récupère mon chemisier humide, me rends compte qu'il est irrécupérable et le jette dans la poubelle. Puis je m'accroche au lavabo pour contempler encore mon reflet. 2 yeux fatigués me regardent. L'horreur du spectacle qu'ils viennent de voir assombrit leur teinte noisette en un brun obscur. Je me frotte les joues pour leur redonner de la couleur, sans résultat. J'ai une tête de mort. M'adossant au mur, je vois l'homme en train de plier sa cravate qu'il range dans sa poche. « Je ne saurais dire si vous êtes calme ou en état de choc », déclare-t-il alors. « Je ne suis pas en état de choc, mais pas sûr non plus de me sentir très calme. « Je ne sais pas, dois-je reconnaître. Et vous, ça va ?»« Oui, j'en ai vu d'autres, malheureusement. » J'essaie de comprendre ce qu'il sous-entend par là, mais il détourne le regard, et ça ne m'en intrigue que davantage. Qu'a-t-il pu voir de pire qu'un homme écrasé sous un camion? À moins qu'il ne soit finalement bien new-yorkais, ou qu'il ne travaille dans un hôpital. Il a cet air compétent qui caractérise souvent ceux qui s'occupent des autres. « Vous êtes médecin ?»« Non, je suis dans l'immobilier. Enfin, je l'étais. » Il se rapproche pour me passer une main sur l'épaule, comme s'il essuyait quelque chose, sur sa chemise, puis il m'observe un instant avant de reculer. Ses yeux sont de la couleur de la cravate qu'il vient d'ôter, vert. Il est beau, mais quelque part, j'ai l'impression qu'il préférerait ne pas l'être, comme si ça le dérangeait. Il n'a pas trop envie qu'on le remarque. Il voudrait devenir invisible, comme moi. La plupart des gens qui viennent à New York veulent se faire connaître. On n'est pas très nombreux à préférer se cacher. « Comment vous appelez-vous » demande-t-il. « Lowen. » S'ensuit un court silence. « Jeremy. » lâche-t-il au bout de 2 secondes. Il rouvre le robinet et commence à se laver les mains. Je ne le quitte pas des yeux, incapable de contrôler ma curiosité.